Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку. Заключительный этап для учащихся 9-11 классов. Уровень сложности B2+. Конкурс понимания устного текста.
Compréhension de l'oral. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses. Vous lisez maintenant les questions. Vous avez 3 minutes. Vous écoutez maintenant l'enregistrement.
Julie Neveu, bonsoir. Vous êtes linguiste à Sorbonne Université. Votre livre « Le langage de l'amour », c'est aux éditions Grasset. On vous a invité parce que c'est le week-end de la francophonie. C'est le 19e sommet de la francophonie où l'on célèbre ce qu'on appelle, et je vais le dire exprès, la langue de Molière. Parce que vous dites, halte là, la langue de Molière, c'est plus du tout celle qu'on parle aujourd'hui. Molière, il ne nous comprendrait pas aujourd'hui. Comment parlait-on d'ailleurs à l'époque de Molière? On a une idée?
Ben, on a une petite idée. Il y a des gens qui travaillent à restituer le français parlé, et c'était plutôt le François, déjà.
On disait le François au XVIIe siècle.
Oui, et on prononçait parfois les finales aussi avec les S. Et on prononçait les E. Je suis un ouïe-e, vous voyez. Donc il y avait plein de différences. Et c'est vrai que si on les entendait, sans doute qu'on penserait que c'est une autre langue et réciproquement.
On prononçait toutes les lettres, hein, comme en anglais, autrement, je vous ai.
Autrement, hein, tout autrement, à fait. Voilà. Donc, ça dépendait des registres. Il y avait des contextes où on parlait différemment. Et puis c'est très difficile de documenter ça. Mais en tout cas, oui, il y a des témoignages qui montrent qu'on prononçait souvent les finales. Enfin, c'est une autre langue. Et si vous voulez, c'était il y a 4 siècles et demi. Donc en effet. Donc, 4 siècles et demi plus tard, oui, on ne parle pas du tout
et
la langue que parlait Molière.
Il était beaucoup plus divers parce qu'il y a beaucoup plus d'accents et j'imagine...
Beaucoup plus.
Aujourd'hui, il y a un français standard qui ne bouge plus d'ailleurs, qui est un peu figé, ce français standard, avec une académie française qui veille à ce qu'il ne bouge pas. Non, parce que les Anglais sont très étonnés qu'on ait une police de la langue française.
Ben, on a une police symbolique, disons, parce qu'elle n'a pas de réelle, elle n'a pas de réelle autorité, sinon symbolique. Mais en effet, les Français continuent à beaucoup écouter, je crois, ce que dit l'Académie française. Et vous parliez de figement. On a tout à fait quelque chose qui est figé, et c'est pas du tout la façon qu'on a de parler à l'oral, mais c'est notre norme écrite, c'est-à-dire l'orthographe. Orthographe dont il faut bien comprendre. Qu'en fait, c'est pas toute la langue, c'est juste un code graphique, vous voyez. Or, ce code graphique, il est bloqué chez nous, en effet. Et ça, c'est un vrai problème, notamment à l'échelle de la francophonie, puisqu'il y a des millions et des millions de gens, 150 millions d'apprenants du français aujourd'hui, qui ont du mal parce que on a des codes qui sont vraiment un peu incohérents.
Bon, alors, voilà, que pensez-vous des anglicismes qui pullulent dans la langue française? Glow up, ça veut dire c'est briller en anglais, oui. Hein. Mais je sais que alors par exemple il y a spoiler qui est devenu très populaire. To spoil en anglais, ça veut dire gâcher. Et alors le petit Robert, maintenant c'est tellement utilisé dans la langue française, dit spoiler, ça veut dire gâcher l'effet de surprise en dévoilant un élément clé d'un film ou d'une série. Diriez-vous que le français est en train de se faire manger par l'anglais?
Non, moi je dirais pas ça du tout. Je dirais que le français, comme toutes les langues vivantes, incorpore du lexique de toutes les cultures avec lesquelles elle est en contact. Et donc, spoiler, ça en fait partie. Hein. C'est un vocabulaire qui se développe, qui se précise selon le contexte d'emploi. Donc spoiler, vous voyez, on l'utilise vraiment pour la culture audiovisuelle, pour les séries, surtout pour les séries en fait.
Ouais.
Et donc on dirait pas ça dans un autre registre, me gâche pas mon anniversaire par exemple en faisant la tête. On va pas dire me spoil pas, vous voyez, c'est pas la même chose.
D'accord.
Donc en fait quand une langue retient un mot, c'est qu'elle a un intérêt. Mais la langue est une forme d'inconscient collectif, de pratique sociale collective qui est intelligente. Et on sous-estime toujours quand on craint les emprunts à l'anglais, à l'arabe, en italien au XVIe siècle. On craint toujours, oh là là, mon Dieu, est-ce qu'on est menacé? Mais pas du tout, c'est une langue qui emprunte parce qu'elle s'enrichit de nuances. Et je peux vous promettre que tous les mots que vous allez emprunter qui ne seront pas en français, c'est que vous avez trouvé un intérêt. Donc par exemple, on va dire « je fais du shopping, mais je fais des courses ». Et écoutez un petit peu, vous les utilisez pas au même endroit. Week-end. Est-ce que ça vous dérange qu'on dise, ah tiens, j'ai emmené mon pull en week-end, n'oublie pas. Oh, promène ton bulldog ce week-end. Bon, bulldog.
Nous, on emprunte beaucoup aux Anglais.
Mais non.
Les Anglais empruntent moins aux Français.
Non, vous savez sans doute que l'anglais a pour lexique à peu près la moitié de son lexique vient de l'ancien français.
Mais c'était une époque où le français rayonnait. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'anglais a gagné la bataille? Alors,
je crois qu'il faut arrêter de croire, en revanche, qu'on peut lutter de ce point de vue-là. Mais néanmoins, on est la 5e langue la plus parlée au monde.
Alors, en tous les cas, on peut lire votre livre « Sans faute d'orthographe, le langage de l'amour » aux éditions Grasset. Merci beaucoup, Julie Neveu.
Vous commencez à répondre aux questions, vous avez 5 minutes. Vous écoutez l'enregistrement.
Julie Neveu, bonsoir. Vous êtes linguiste à Sorbonne Université. Votre livre « Le langage de l'amour », c'est aux éditions Grasset. On vous a invité parce que c'est le week-end de la francophonie. C'est le 19e sommet de la francophonie où l'on célèbre ce qu'on appelle, et je vais le dire exprès, la langue de Molière. Parce que vous dites « halte là, la langue de Molière, c'est plus du tout celle qu'on parle aujourd'hui, Molière ». Il ne nous comprendrait pas aujourd'hui. Comment parlait-on d'ailleurs à l'époque de Molière? On a une idée?
Ben, on a une petite idée. Il y a des gens qui travaillent à restituer le français parlé. Et c'était plutôt le François, déjà.
On disait le François au XVIIe siècle.
Oui, et on prononçait parfois les finales aussi avec les S. Et on prononçait les E. Je suis un nuyé, vous voyez. Donc il y avait plein de différences, et c'est vrai que si on les entendait, sans doute qu'on penserait que c'est une autre langue, et réciproquement.
On prononçait toutes les lettres, hein, comme en anglais, autrement, je vous ai...
Autrement, hein, tout autrement, à fait. Voilà. Donc, ça dépendait des registres, il y avait des contextes où on parlait différemment, et puis c'est très difficile de documenter ça, mais en tout cas, oui, il y a des témoignages qui montrent qu'on prononçait souvent les finales. Enfin, c'est une autre langue, et si vous voulez, c'était il y a 4 siècles et demi, donc en effet... Donc, 4 siècles et demi plus tard, oui, on ne parle pas du tout de la langue que parlait Molière.
Il était beaucoup plus divers, parce qu'il y a beaucoup plus d'accents, et j'imagine...
Beaucoup plus.
Aujourd'hui, il y a un français standard, qui ne bouge plus d'ailleurs, qui est un peu figé, ce français standard, avec une académie française qui veille à ce qu'il ne bouge pas. Non, parce que les Anglais sont très étonnés qu'on ait une police de la langue française.
Ben, on a une police symbolique, disons, parce qu'elle n'a pas de réelle, elle n'a pas de réelle autorité, sinon symbolique. Mais en effet, les Français continuent à beaucoup écouter, je crois, ce que dit l'Académie française. Et vous parliez de figement. On a tout à fait quelque chose qui est figé, et c'est pas du tout la façon qu'on a de parler à l'oral, mais c'est notre norme écrite, c'est-à-dire l'orthographe. Orthographe dont il faut bien comprendre. Qu'en fait, c'est pas toute la langue, c'est juste un code graphique, vous voyez. Or, ce code graphique, il est bloqué chez nous, en effet. Et ça, c'est un vrai problème, notamment à l'échelle de la francophonie, puisqu'il y a des millions et des millions de gens, 150 millions d'apprenants du français aujourd'hui, qui ont du mal parce que on a des codes qui sont vraiment un peu incohérents.
Bon, alors, voilà. Que pensez-vous des anglicismes qui pullulent dans la langue française? Glow up, ça veut dire c'est briller en anglais, ouais. Hein. Mais je sais que alors par exemple il y a spoiler qui est devenu très populaire. To spoil en anglais, ça veut dire gâcher. Et alors le petit Robert, maintenant c'est tellement utilisé dans la langue française, dit spoiler, ça veut dire gâcher l'effet de surprise en dévoilant un élément clé d'un film ou d'une série. Diriez-vous que le français est en train de se faire manger par l'anglais?
Non, moi je dirais pas ça du tout. Je dirais que le français, comme toutes les langues vivantes, incorpore du lexique de toutes les cultures avec lesquelles elle est en contact. Et donc, spoiler, ça en fait partie. Hein. C'est un vocabulaire qui se développe, qui se précise selon le contexte d'emploi. Donc spoiler, vous voyez, on l'utilise vraiment pour la culture audiovisuelle, pour les séries, surtout pour les séries en fait.
Ouais.
Et donc on dirait pas ça dans un autre registre, me gâche pas mon anniversaire par exemple en faisant la tête. On va pas dire me spoil pas, vous voyez, c'est pas la même chose.
D'accord.
Donc en fait quand une langue retient un mot, c'est qu'elle a un intérêt. Mais la langue est une forme d'inconscient collectif, de pratique sociale collective qui est intelligente. Et on sous-estime toujours quand on craint les emprunts à l'anglais, à l'arabe, en italien au XVIe siècle. On craint toujours, oh là là, mon Dieu, est-ce qu'on est menacé? Mais pas du tout. C'est une langue qui emprunte parce qu'elle s'enrichit de nuances. Et je peux vous promettre que tous les mots que vous allez emprunter qui ne seront pas en français, c'est que vous avez trouvé un intérêt. Donc, par exemple, on va dire, je fais du shopping, mais je fais des courses. Et écoutez un petit peu, vous les utilisez pas au même endroit. Week-end. Est-ce que ça vous dérange qu'on dise, ah tiens, j'ai emmené mon pull en week-end, n'oublie pas. Oh, promène ton bulldog ce week-end. Bon, bulldog.
Nous, on emprunte beaucoup aux Anglais.
Mais non.
Les Anglais empruntent moins aux Français.
Non, vous savez sans doute que l'anglais a pour lexique à peu près la moitié de son lexique vient de l'ancien français.
Mais c'était une époque où le français rayonnait. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'anglais a gagné la bataille? Alors,
je crois qu'il faut arrêter de croire, en revanche, qu'on peut lutter de ce point de vue-là. Mais néanmoins, on est la cinquième langue la plus parlée au monde.
Alors, en tous les cas, on peut lire votre livre sans faute d'orthographe,
Le
langage de l'amour, aux éditions Grasset. Merci beaucoup, Julie Neveu.
Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail. L'épreuve est terminée. Vous déposez maintenant vos stylos.